On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Bonjour à tous, salut Kevin.
Salut.
Et bienvenue dans Un Pas de Côté, l'émission qui questionne local, qui pense global et qui accueille des gens enthousiasmants, qui nous prouvent que non seulement un autre monde est possible, mais en plus qu'il existe déjà. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission, nous avons le plaisir de recevoir deux passionnés, Magali Mas, qui est céramiste à Millars, créatrice de savons, curieuse de plantes qui font du bien. Bonjour Magali.
Bonjour.
Et Rémi Kulik, créateur du Jardin des Merveilles. Salut Rémi.
Salut.
Le jardin des merveilles, c'est en un seul mot, hein, c'est un jardin d'émerveillement. Rémi, passionné de plantes en général et de plantes à histoire en particulier, les plantes chamaniques, tinctoriales, aromatiques. Bonjour donc, avec eux nous allons parler de relations entre plantes et santé, vaste sujet. Nous avons demandé à nos invités de nous confier un choix musical qu'ils nous feront partager tout à l'heure et un petit conseil concret parce que parler c'est bien et faire, eh ben c'est bien aussi. On finira aussi notre émission par un petit coup de cœur que Kevin et moi vous ferons partager. Est-ce que le programme vous convient ?
C'est bien.
Non, vraiment, ça ok, va. Ça va. Alors c'est on commence. Bien. Moi, je vous ai présenté rapidement. Comment vous présenteriez, Magali, Rémi? Comment vous présenteriez, vous, si on devait vous demander qui vous êtes?
C'est moi qui commence.
Allez, vas-y.
Comment je me présenterais? Moi, je suis jardinier, ethnobotaniste. Ça me plaît assez bien aussi.
Ethnobotaniste.
Ethnobotaniste, c'est... vous voulez un peu une rapide définition? C'est, ouais. Botaniste, c'est, si c'est juste botaniste, ça va être juste parler de la plante, comment on la décrit, comment on la reconnaît. Et ethnobotaniste, c'est pas parler de ça, c'est plus parler de la plante dans son rapport qu'elle a avec l'homme. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, ça englobe, c'est général, ça prend les plantes médicinales, les plantes alimentaires, les tinctoriales, les plantes à histoire. C'est tout la plante dans le rapport qu'elle a avec nous, quoi.
Très bien. Et Magali, comment tu te présenterais, toi?
Alors, le mieux, c'est de me présenter comme vivante, parce que après, je fais plein de choses, et les plantes médicinales, ça m'a pris il y a plus de 25 ans, et ça a été vraiment toute ma vie, j'ai cherché à comprendre, à cueillir, à voir comment ça pousse, et à comprendre comment on pouvait s'en servir pour garder la santé. Et ce qui me fascine, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme s'en sert pour se nourrir et pour se soigner. Et voilà. Et je suis autodidacte là-dessus. Je me suis formée plus tard en aromathérapie et récemment en phyto et aroma vétérinaire.
D'accord.
Voilà.
Et dans ton parcours, parce que tu es aussi céramiste, c'est rigolo d'ailleurs, parce que le mois dernier, on a reçu Maurice Chaudière qui est céramiste à la base aussi. Et comment ça s'est marié à un moment donné, cette activité de lien avec la terre, de construction avec la terre et de rapport aux plantes?
Bah, il y a une évidence, ouais. La terre, c'est la terre, et dans toute. La terre, ça me touche dans toutes ses dimensions, et que ce soit la terre du jardin ou l'argile dans l'atelier. Tout cohabite, il y a une évidence et c'est tout le temps la même chose. Et pendant que mes pots y cuisent, je suis au jardin parce que voilà, c'est la terre, moi, ça m'équilibre. C'est quelque chose que j'en ai besoin et du coup, j'ai tout le temps les mains dedans, quoi.
Moi, j'avais fait un stage une fois avec Raoul Jacquin et il nous avait raconté qu'aller au jardin, c'était bien parce que c'était comme se mettre à la terre, quoi. Comme quand on parle d'un schéma électrique, et c'est important de temps en temps d'aller se décharger l'énergie et de faire une prise terre avec la terre au jardin.
Comme en médecine chinoise, il te conseille tous les jours de marcher un petit peu pieds nus sur la terre pour décharger un peu ton énergie aussi.
Et te recharger,
quoi. Ouais. Et te recharger, oui, rééquilibrer.
D'accord. Et donc, toi, Rémi, tu es aussi autodidacte, mais tu as fait une formation particulière.
Alors après j'ai fait quelques formations pour les plantes médicinales. Oui, je fais une formation d'herboriste, formation qui n'est pas diplômante parce que le diplôme d'herboriste n'existe plus, mais voilà, j'ai été formé un petit peu. Oui.
D'accord. Et donc en gros, donc dans les grandes lignes, tu es sur deux marchés, donc à Cordes-sur-Ciel et à Saint-Antonin, et tu vends des plantes médicinales aux passants.
Oui. Alors plantes médicinales, pas vraiment. J'ai pas le droit de le dire ça. Je vends des plantes aromatiques. Des plantes à parfum aromatiques. Après, voilà, beaucoup de plantes aromatiques, toutes les plantes même aromatiques sont médicinales, mais j'ai pas le droit de les vendre en tant que plantes médicinales. J'ai pas le droit de diagnostiquer, de dire tu peux prendre ça pour te soigner. Ça, d'accord. Non, ça c'est interdit.
Mais tu encourages de les intégrer dans ton jardin, dans ta vie tous les jours.
Après, j'explique quand même très bien aux gens que c'est des plantes qui ont été utilisées, qui ont des vertus médicinales.
D'accord.
Après, à eux de faire le lien.
Parce que c'est ça, on est toujours, on est, au niveau législatif, il y a toujours, on marche sur des œufs quand on parle de plantes, d'usage des plantes aromatiques. Ah, alors on dit aromatiques.
Le lobby pharmaceutique nous bloque un peu, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc il faut, il faut avoir une formation en pharmacie, etc.
Voilà, pour c'est pouvoir. Ça. C'est pas interdit d'en vendre, mais si tu vas avoir le droit d'en vendre, il faut faire une formation, études de médecine, formation en pharmacie, et là t'as droit d'avoir le droit, t'as droit de vendre des plantes. Si en plus tu veux t'y connaître en plantes, après cette formation en pharmacie, il faut en plus faire une formation en herboristerie. Parce que la formation de pharmacien, c'est, il ne parle pas beaucoup de plantes, c'est beaucoup de médecine chimique.
Mm-hmm. Alors si je peux me permettre, Rémi, il me semble qu'on a le droit de vendre des plantes, c'est de prescrire qu'on n'a pas le droit.
Oui.
Parce qu'on peut acheter et revendre des plantes sans que personne nous demande quoi que ce soit.
D'accord.
À partir du moment où on ne fait pas de prescription.
Mm-hmm. D'accord. Donc tu n'as pas le droit de soigner, tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot, le mot soigner. Donc quel serait le mot le plus adéquat, par exemple ?
Soutien des fonctions.
Soutien des fonctions, tout simplement.
C'est bien, soutien des fonctions. En plus, c'est vraiment l'effet réel qu'ont la plupart des plantes. Une plante, elle ne fait pas que soigner, elle apporte du matériel pour que le corps puisse se défendre tout seul. Ou pour optimiser, booster les émonctoires, pouvoir éliminer les toxines et les déchets.
Émonctoires, on va faire une petite arrêt définition.
Alors, les émonctoires, c'est les organes qui nous permettent d'éliminer les déchets. Voilà.
Donc, les filtres, les reins, le foie,
voilà,
les poumons.
Oui.
Donc, en gros, les plantes vont venir travailler sur ces organes, en fait.
Oui, elles ont toujours une composition complexe et il n'y a jamais une seule molécule. Il y a des molécules qui sont en plus grande quantité, il va y avoir une action principale, mais il y a toujours tout un tas de propriétés autour et c'est pour ça que les virus, les microbes, tout ça ne savent pas s'adapter et on a toujours... ça reste toujours actif, les principes d'une plante. Contrairement aux molécules synthétiques où les microbes sont parfaitement résistants et savent s'adapter.
D'accord.
Voilà.
C'est un peu la différence qu'on fait entre le totum qu'on utilise en herboristerie, le totum, ça veut dire la plante entière, et juste la molécule active qu'on utilise en médecine allopathique. Dans le totum, tu as tellement de choses que c'est... Voilà, c'est les virus, les bactéries, elles peuvent pas s'y adapter.
C'est la complexité du vivant qui fait que c'est utile. Quoi. Si on isole trop, effectivement, après...
C'est pour ça que les antibiotiques, ils sont obligés d'en recréer des nouveaux régulièrement parce que les virus s'adaptent.
Ou même, si on fait le parallèle avec des agents de traitement en agriculture, etc., ça marche un temps, et puis la plante, elle développe des résistances qui fait que le produit, il faut en mettre de plus en plus, ou il faut le changer. Quoi.
Alors, c'est un peu le principe de biodiversité. Plus tu as d'éléments différents, plus tu as l'équilibre. Et dans une monoculture où t'as qu'une plante, là ils sont obligés d'y aller à coups d'engrais, de pesticides.
Mais ça fait du bien actuellement d'entendre aussi que même chez les humains ça marche. Ça,
ah ben oui,
il faut de la biodiversité pour que ça soit bien.
Exactement.
Ça fait du bien en ce moment d'entendre ce genre de choses. Et alors une bonne plante pour vous, si vous deviez chacun choisir une plante qui soutient de belle façon nos fonctions, on va dire ça comme ça. Je sais pas de quelle plante vous êtes particulièrement amoureux.
L'ortie. Ah, oui, la première.
Ah, c'est une panacée, ouais.
C'est une des panacées. Ouais. L'ortie, c'est une plante qui pousse partout.
Pourtant, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Ça fait mal,
il ne faut pas la pousser dedans. Non. Il faut la pousser à côté. Il faut l'aider à les ramasser et apprendre avec elle à les cuisiner. Parce que les mamies, justement, elles savaient les cuisiner, les orties. Aujourd'hui, on ne les cuisine plus beaucoup. Moi, je connais même certaines personnes assez âgées qui n'ont jamais mangé d'ortie. Je trouve ça dommage. C'est une plante qui est anthropophile. On dit, elle suit l'homme. Partout où il y a des fermes, il y a eu des animaux, les orties, elles envahissent. Elles sont là pour un peu rééquilibrer le terrain. C'est pour ça qu'elles sont en masse.
Parce qu'elles aiment les terrains très azotés,
très riches.
Voilà, ou
très riche, ouais.
Oui, donc quand il y a
et du coup, c'est une plante qui a multi-usage, qui est médicinale, qui est riche en fer, en chlorophylle, qui est anti-anémique, qui a plein de vertus, qui est alimentaire. On peut faire des purins pour soigner le jardin en plus avec. Enfin, c'est voilà, pour moi, c'est une plante.
Donc quand il y a une plante qui nous suit comme ça partout, il faut se dire quelque chose que peut-être en fait elle essaie de
rien. Elle est pas là pour
voilà.
rien.
Voilà, elle nous fait toc-toc, les gars, je suis là.
C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'ortie? Qu'est-ce que je peux faire
Qu'est-ce qu'on fait? Bah, le plus simple, c'est de la manger, déjà. Ouais. Donc, après, c'est un peu, ça aussi, on pourrait
y revenir. Ça va pas piquer la langue, quoi.
Non, une fois que c'est cuit, non. Après, il y a même des méthodes pour réussir à les manger crues, mais non, une fois cuit, elle est plus urticante du tout. Et après, c'est un peu, voilà, comme les épinards, si vous savez cuisiner les épinards, vous savez cuisiner les orties. Tu peux les faire cuire un petit peu à la vapeur ou les mettre directement dans la soupe. Hein. Il y a plein de méthodes. Moi, j'ai un truc qui marche très très bien, c'est que tu remplis ta gamelle d'ortie, tu mets un peu d'eau au fond, tu fermes. ça va faire de la vapeur, elles vont réduire un petit peu, tu peux en rajouter, tu mixes tout ça, et cette purée-là, tu peux la mettre au congélateur, et t'en as toute l'année. Toute l'année, t'as juste à en sortir un petit peu, et c'est très très concentré, et tu peux en mettre dans les sauces, tu peux en mettre dans les tartes, tu peux même faire de la glace à l'ortie, tu peux du pain à l'ortie.
Et on essaie de cueillir les jeunes feuilles qui sont un peu plus tendres quand la plante est vraiment bien développée.
C'est
quoi, donc au printemps, quand, dans quelques temps, là,
printemps, automne, t'as des poussées, et après, à part l'hiver, tu peux en avoir tout le temps. Si tu vas en avoir en plein été, tu vas trouver un endroit un petit peu avant où il y a beaucoup d'orties, tu fauches tout et t'arroses. Ou tu fauches tout avant une pluie, c'est quand même mieux. Et tu reviens un mois après, des jeunes pousses, t'en auras. Sinon, voilà, printemps, t'en as partout, et automne, il y a beaucoup d'endroits où elles ont un peu disparu, séché pendant l'été, où t'as une repousse avant l'hiver.
Et alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, l'ortie? Tu pourrais nous préciser?
C'est une des plantes les plus riches en fer qui soit. Alors, je sais pas, la plus riche en sérum, mais très, très riche en fer. Donc, le fer, c'est anti-anémique, ça apporte beaucoup d'énergie. Et après, le corps, quand il a beaucoup d'énergie et qu'il est plein, ben, il peut se soigner lui-même de beaucoup d'autres choses.
Bien sûr, si le terrain est en bonne santé, ça va mieux.
Oui, c'est ça qui est bien dans la phytothérapie, c'est ce qu'on essaye de favoriser. Dans la médecine allopathique, on va soigner un symptôme avec une molécule. Alors que dans la phytothérapie, on essaye de soigner le terrain, on n'attend pas d'être malade pour se soigner.
D'accord.
Après, pour revenir sur l'ortie, c'est aussi plein de minéraux, de vitamines.
Oui.
Moi, j'aime bien aussi l'utiliser parce que je trouve que c'est facile. Je la fais sécher et je la réduis en poudre. Et c'est très facile de saupoudrer dans les salades ou dans ce qu'on veut, dans les légumes. Et du coup, on fait le plein de vitamines et minéraux.
Cool.
Ça n'a pas vraiment un goût marqué. Donc ça gâche rien, c'est facile à prendre, et même les enfants, c'est bien avant l'hiver de faire une petite cure, ça renforce bien le terrain, et voilà.
Moi aussi, et sécher, du coup, tu la cuis pas et tu gardes bien les vitamines aussi, voilà. Parce que c'est une plante qui est très,
par
très
contre,
riche en vitamine C.
Par contre, tu dis que ça n'a pas trop de goût, et des fois, moi, je me trouve avec un goût de poisson.
Ah si, ça a du goût.
Oui, mais je me trouve avec un goût de poisson dans l'ortie.
Je te parlais de sécher.
D'accord, sécher, il n'y aura
pas vraiment de goût, du coup, on peut le mettre dans tout.
Tu ne confonds pas avec la consoude?
Non.
La consoude a vraiment un goût de poisson, par contre.
D'accord. Bon, mais c'est un mystère que j'ai encore élucidé.
Bon, et pour les plantes dont l'ortie et dont on va parler peut-être encore après, du coup, quand on les cueille, on essaie aussi de faire attention à pas les, aux endroits où on les prend.
Oui, bah, qu'il y a toujours plein de règles,
Notamment, je sais pas, moi je pense comme ça aux bordures de route, évidemment, mais. Mais de faire
ou
attention.
Ne pas les prendre,
alors,
en fait.
Comme on disait, c'est une plante qui aime bien les terrains riches. Si c'est un lieu cultivé, par exemple, en bas d'un champ, c'est bien de se renseigner avant comment il est cultivé, ce champ, parce que s'il y a beaucoup de pesticides, d'engrais, tout ça, l'ortie, elle adore ça, elle est là pour rééquilibrer.
Donc elle va accumuler tout ça dans ses tissus, d'accord, ok.
Éviter les bords de route. Après, au niveau de la cueillette, oui, il y a des règles, on peut les citer vite fait. C'est cueillir que la quantité dont on a besoin, jamais cueillir trop. Cueillir que dans les endroits qui sont propres. Cueillir que les plantes qu'on connaît. Si on n'est pas sûr de ce que c'est, il y a des risques parfois, donc faut éviter. Et après, il y a certaines règles avec lesquelles je suis pas complètement d'accord. Il y en a certains qui vont dire, je trouve un lieu où il y a de la plante, si tu prends jamais plus que 30%. Comme ça, t'es sûr de laisser. Mais bon, toi, tu prends 30% de ce qu'il y a. Le gars qui passe après, il prend 30% de ce qui reste. Et le gars qui passe après, 30% de ce qui reste. Et au final, il n'y a plus rien. Donc, non, c'est bien regarder le lieu. Et s'il y en a pas beaucoup, c'est pas là qu'il faut la prendre. Après, pour l'ortie, par exemple.
Ouais, oui, pas de restriction, elle n'est pas en voie de disparition.
Alors si tu peux tout ramasser, tu reviens un mois après, il y a tout qui repousse.
J'ai une règle, moi, quand je fais de la cueillette, je me dis, il ne faut pas que ça se voit. Je prélève de manière que ça ne se voit pas.
On ne voit pas ton passage, en fait.
Ouais.
Cool. C'est une bonne règle, j'aime bien ça.
La discrétion et la retenue. Ok, on va faire une première respiration. Donc on a demandé, on vous a demandé à chacun un petit morceau. Et Magali, tu nous as parlé d'un morceau de Dick Hanegaard. Alors on va l'écouter ensemble. Ça s'appelle Sacré Géranium. À tout de suite.
Sacré Géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête.
dis-toi le chat, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Hey, funtikiali, no, oh. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ouh, titiali, no. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, 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 oh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ouh, ouh, un chiton fadon.
C'était Dick Hanegarn, sacré géranium, sacré Dick Hanegarn. On est toujours dans un pas de côté avec Rémi Kulik, avec Magali Mas, avec Kevin qui est en face de moi avec sa grande barbe.
Voilà.
Et avec Jacques qui nous aide à la technique. Heureusement qu'il est là. On voulait repartir sur Kevin.
Oui, voilà, justement, moi ce qui m'intéresse dans les plantes médicinales, c'est est-ce que donc c'est une plante magique qui vient nous soigner? Ben ça y est, tout de suite on en prend quand on va mal et ça va nous guérir et après on peut reprendre le rythme de notre vie habituelle.
Alors,
stressante.
Oui, ça peut faire ça. Après, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est pas attendre. Ça, c'est un peu ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête depuis longtemps avec la pharmacie classique et la médecine allopathique qui va attendre qu'on soit malade pour nous donner la molécule qui va soigner un symptôme. En phytothérapie, ce qu'on essaye de voir, c'est plutôt entretenir un terrain et rester en bonne santé. Donc les plantes, elles vont d'abord nous aider à rester en bonne santé, à avoir une bonne hygiène. Après, la plante, c'est quelque chose. Ce qui est bien de voir avant, c'est l'hygiène de vie, le rythme de vie, avoir de l'activité physique dans la journée, bien dormir la nuit, avoir une alimentation bien diversifiée. Éviter au maximum le café, le tabac. Après, éviter au maximum, ça veut pas dire ne pas en prendre. Ce qui est pas bon, c'est l'abus. C'est pas interdit de fumer des cigarettes. Si tu fumes pas 4 paquets par jour, ça va. Jeanne Calment, je sais pas à quel âge elle est morte, mais elle fumait une cigarette par jour. Donc voilà, après, effectivement, aussi, la plante peut soigner un symptôme, mais c'est bien de préparer un peu le terrain avant, de prendre, boire des tisanes, sans chercher à savoir qu'est-ce qui est bon comme tisane. Bois des tisanes, fais-toi un romarin le matin, une petite camomille le soir. Et, si un jour t'es malade, après tu peux chercher qu'est-ce qui va te soigner, mais déjà prends
en général, ça va entretenir le terrain. Alors par contre, justement, donc c'est le tabac et le café, ce ne seraient pas des plantes médicinales?
Alors si, ça peut. Le tabac, alors médicinal, je sais pas. Le tabac, c'était à la base une plante sacrée qui a été utilisé par les Amérindiens pour les cérémonies. Pour se soigner, je sais pas. Après, toutes les plantes contiennent des principes actifs. Je sais pas si en homéopathie, peut-être nicotiana, il doit y avoir un truc comme ça ou. Oui, toutes les plantes, et je dirais vraiment, vraiment toutes les plantes contiennent des molécules. Ça, c'est obligatoire.
Donc, ça va être l'utilisation
tout ça
aussi.
Peut être utilisé.
Par exemple, 6 cafés par jour, non, là, il n'y a plus le côté médicinal. Là, au contraire, tu peux abuser donc des plantes médicinales.
L'abus de quoi que ce soit n'est jamais bon. Ouais, ouais.
D'accord.
Il y a Paracels, il y a déjà bien longtemps, il disait tout est remède, tout est poison. C'est la dose qui fait la différence.
D'accord. Exactement.
Donc, le café, oui, mais à dose prescrite. Pareil, le tabac, effectivement, mais dans des. Avec conscience, donc avec des... Et donc tu pourrais, avec une plante médicinale, avoir une toxicité, justement. Par exemple, l'ortie, tu peux abuser de l'ortie?
Je sais pas. Pourquoi pas? Sûrement, si tu en manges trop, tu peux avoir une indigestion après. Avoir des problèmes de santé si tu manges trop d'ortie, là, je suis pas sûr.
Si tu tombes dedans.
Si tu tombes dedans, là, tu peux te faire mal. Après, l'ortie qu'on a ici, elle est pas dangereuse. T'as certaines orties, notamment, qui font des arbres qui poussent en Australie.
Ouais, j'ai vu.
Celle-là, faut pas la toucher, quoi. Mais non, l'ortie, c'est pas une plante avec laquelle tu peux te faire mal. Après, t'as d'autres plantes. Ou qui contient par exemple la sauge ou l'hysope qui contiennent des huiles essentielles. L'huile essentielle peut être toxique même pour des petites doses, ça peut être toxique.
D'accord.
Donc oui, plante médicinale. beaucoup de gens vont te dire c'est naturel, c'est bon. Non, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Il faut toujours faire attention à qu'est-ce que c'est, comment tu l'utilises.
D'accord. Alors nous, on a vu dans une autre émission de radio, en fait, permaculturellement, où on parle du côté médicinal de ces plantes sur le jardin, donc l'effet positif sur le jardin. On en parle sur l'humain. Et est-ce que justement sur les animaux, est-ce qu'il y aurait aussi un impact sur les animaux ?
Tout à fait. Et c'est même remarquable comme les résultats qu'on a. C'est parce qu'en en fait, il n'y a pas la barrière psychologique. Et du coup,
de l'animal, tu veux dire.
De l'animal, bien sûr. Et du coup, on a des super résultats. Je travaille actuellement avec un berger qui a 400 brebis et une douzaine de vaches. Et donc, on travaille sur le parasitisme, sur les soins, les blessures, les infections. Là, en ce moment, il y a les agneaux. Donc, on fait beaucoup de soutien métabolique parce que c'est très important de commencer par avoir... De toute façon, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Rémi... une bonne hygiène de vie, c'est dans un troupeau, c'est un bon équilibre, une belle vitalité, un système digestif performant et un système immunitaire performant. Et voilà, et c'est d'arriver à entretenir tout ça. Et si malgré tout, il y a des pathologies, on a en aromathérapie, par exemple, un matériel très performant. Pour soigner.
Il y a des tu parles d'aromathérapie, donc d'huile essentielle et eau florale au hydrolat sur les animaux.
Alors là je te parle surtout d'huile essentielle.
Ouais.
C'est ce qu'on va utiliser pour avoir une action immédiate et après en phyto on travaille avec des extraits de plantes qui sont très concentrés et qui ont une rémanence plus longue que les huiles essentielles.
C'est quoi extrait de plante par rapport à l'huile essentielle ? C'est quoi la différence de...
Alors, les extraits de plante... Alors, l'huile essentielle, c'est un produit obtenu par distillation. Et l'extrait de plante, c'est une macération hydroalcoolique de plantes séchées et broyées.
D'accord.
Voilà, on sèche et on broie les plantes pour avoir quelque chose de plus concentré par rapport à une teinture mère. Où on a, selon le codex pharmaceutique, une quantité de plantes avec une quantité d'eau et d'alcool. Et là, l'extrait est plus concentré. Voilà. Et donc...
Donc après, c'est sûr, c'est quoi ? C'est ajouté à l'eau de boisson des animaux ?
Alors, ça peut être... Ça dépend
comment ça s'emploie ? Comment vous l'employez dans le troupeau ?
Ça dépend comment on traite. Si c'est un traitement individuel... On va utiliser ou par drogage, c'est comme ça qu'on appelle la voie orale pour les bêtes, ou en transcutané pour les huiles essentielles.
Ah oui.
C'est-à-dire on dilue dans de l'huile végétale et on fait passer par la peau. La peau absorbe très bien les huiles essentielles en quelques minutes, ça passe dans le système sanguin.
Ah oui.
Donc en sous-cutané, avec une injection ou...
Non, sur la peau. Enfin, par exemple, les agneaux, je leur mets sur le bas du dos la colonne vertébrale.
D'accord.
Et la peau aspire, hop, et ça passe dans le système.
Voilà, ça passe très bien dans le système sanguin. Et sinon, quand on traite un troupeau, évidemment, c'est dans la ration, les plantes en poudre dans la ration, ou bien dans l'eau. Là, on travaille aussi avec du chlorure de magnésium, pas forcément que des plantes. Il y a aussi des oligo-éléments et tout ça qui favorisent évidemment l'équilibre.
Et vu ton nez, là je te vois, j'imagine que les résultats sont prometteurs et sont fascinants.
Ouais, c'est super. Alors, ça demande beaucoup de rigueur et surtout. Il faut y être tous les jours, il faut y être deux fois par jour. C'est quand on fait ce choix de soigner les bêtes de cette manière, il faut être régulier et très proche des bêtes. C'est pas là malgré la taille des troupeaux, il faut quand même y être tout le temps, matin et soir, et de manière à pouvoir gérer très vite s'il y a quelque chose qui va pas comme on veut, quoi.
D'accord.
On laisse pas prendre des proportions.
Il y a des bouquins, il y a des documents de auxquels tu te réfères pour
ah,
ça.
Oui,
c'est assez étudié.
Moi, je travaille avec le bouquin et j'ai fait la formation avec ce vétérinaire qui est Philippe Labre. C'est un vétérinaire qui travaille en homéo, en phyto et en aroma depuis 40 ans et qui a une magnifique expérience. Il est en Savoie et il donne des formations très régulièrement. En chambre d'agriculture ou je pense aussi voilà sur son site il est voilà il c'est vraiment quelqu'un de très performant, très en colère aussi par rapport à la réglementation parce que alors je me mouille hein, je le dis c'est l'aroma et la phytothérapie c'est chasse gardée, les laboratoires vraiment ont les dents dehors pour défendre leur beefsteak. Ils veulent pas qu'on se soigne. C'est pas quelque chose qui arrange ce système. Le fait que les gens se prennent en charge et se soignent d'eux-mêmes. Alors on dit qu'on fait du soutien. D'ailleurs, ça en est. Mais voilà, il y a c'est dommage de dévaloriser le bon sens de nos grands-mères. Et quand on a des remèdes de bonne femme, à savoir que bonne femme, ça vient de fameux. Et à l'époque, au Moyen-Âge, les remèdes de bonne femme, c'était des remèdes de bonne réputation. Et il y en a quelques-uns qui sont rentrés dans le codex pharmaceutique. Par exemple, un des plus connus à cause de l'anecdote, c'est le vinaigre des quatre voleurs. Donc, il est rentré dans le codex pharmaceutique parce que il marchait tellement bien ce vinaigre lors d'une épidémie de choléra à Toulouse en 1700, je ne sais plus combien, que il y avait des voleurs qui utilisaient ce vinaigre pour s'immuniser du choléra et pouvoir piller les maisons des gens qui étaient malades. Et quand ils se sont fait prendre, ils ont troqué leur tête contre le remède. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la pharmacopée française.
Ah, super, belle
voilà.
histoire.
Et c'est une macération de plantes dans du vinaigre.
Et que tout le monde peut faire chez soi.
Que tout le monde... Et ça se trouve sur Internet, là. N'hésitez pas à fouiller. Ça, c'est des remèdes pleins de bon sens. Quand il y a des épidémies, que ce soit à l'école de
bon,
gastro,
du choléra, il y en a
de
moins,
grippe.
Quoi.
Oui, mais gastro, plus. Grippe, c'est juste que c'est un remède D'accord. qui remonte l'immunité à fond.
D'accord.
Voilà. Et on peut s'en frotter les mains quand on a été voir quelqu'un qui a une gastro. Enfin, en prendre, ça repousse les poux. On peut s'en mettre sur la tête. On peut on peut désinfecter des blessures. Vraiment, voilà. Il faut pas hésiter à utiliser des petits remèdes
bon, ça
comme
sent
ça.
Fort quand même.
Mm-hmm. Ah, ça sent le vinaigre.
D'accord. Ouais, bon. Donc là, en fait, mais ce que tu dis, c'est à nous, en fait, justement, de faire ce choix, d'aller se documenter sur Internet, de parler avec des personnes et de prendre, se faire ce pas de côté et de choisir ces méthode en fait, sans attendre que...
Je crois, moi, et ça n'engage que moi, que lorsqu'on fait le choix de se soigner de cette façon, d'une manière différente, on fait un pas de côté et on se prend en charge.
D'accord.
Je pense qu'on est seul à avoir le pouvoir de guérir. Le médecin a le pouvoir de soigner, mais le pouvoir de guérir, je pense qu'on est seul à l'avoir. Je pense que c'est important... De récupérer ce pouvoir-là,
ouais,
parce que ça fait une vraie différence dans la façon de vivre une maladie
et une vie en général, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à des spécialistes en tout genre qui nous expliquent comment là en l'occurrence aujourd'hui on parle de soins, comment se soigner, mais comment aussi s'éduquer, comment se loger, comment on est plus capable de faire grand chose par nous-mêmes, quoi, si on écoute vraiment
on attend la permission et le savoir de quelqu'un
et du coup ça fait revenir sur ce que tu disais Rémi tout à l'heure sur l'importance du terrain, quoi. On peut avoir des plantes qui vont aider à soigner. Moi, je le dis, voilà, on peut avoir des plantes qui vont aider à soigner, mais on a surtout une panoplie de plantes qui vont nous aider à pas avoir à nous soigner.
Au quotidien,
à être soigner. Suffisamment en bonne forme pour. Et moi, on m'avait dit il y a quelques temps qu'il y avait de la médecine chinoise, alors je sais pas si c'était tout ou quoi, mais qui, le médecin, le praticien, était payé pour entretenir le patient, mais à partir du moment où le patient tombe malade, là, il est plus payé parce que ça veut dire qu'il a foiré quelque chose. Quoi. C'est quand même pas mal.
Ça
quoi.
Change tout de suite.
On est dans un système chez nous qui est complètement inverse. Plus t'es malade, plus tu vas rapporter. Et donc, quelque part, de façon cynique, il y a quand même intérêt à ce qu'on soit malade pour que la machine tourne.
La société aujourd'hui, c'est ça. On a un rythme de vie, on doit travailler, on doit être performant. Et si on est malade, puis on peut prendre, ou si on n'est pas en forme, on prend des antidépresseurs, on prend des somnifères, on prend des médicaments qui vont nous soigner. Et ouais, je crois qu'ils auront un peu envie que ça aille dans ce sens-là, parce qu'ils se font des sous sur nous.
Ben, en fait, souvent, on va agir sur des symptômes et non pas sur des causes. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, la cause n'est jamais réglée. Mmh. Et si une pathologie s'exprime, c'est que le corps a quelque chose à dire. À partir du moment où il y a des symptômes, ça nous parle
ça
d'une
raconte
cause.
Quelque chose,
et ouais. C'est bien d'aller chercher la cause. Voilà, quand on a un clou dans la godasse, c'est bien de l'enlever avant de soigner la plaie qui est du pied, quoi. En tout cas, il y a
les deux.
Et en plus,
c'est conjugué aussi au. Moi, je trouve, j'ai rencontré pas mal de personnes âgées qui me parlent de leur expérience à l'hôpital où ils sont confrontés à des super spécialistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se confronter tout d'un coup à quelqu'un qui connaît le foie, quoi.
Mais alors le foie,
il le connaît, mais à bloc, quoi. Il est vraiment. Mais du coup, il voit le foie. Et puis dès qu'il va y avoir un truc sur la rate, il va l'envoyer à un autre parce que lui, c'est pas la rate.
Ou si le problème du foie vient d'un problème dans l'alimentation, il n'est pas diététicien, il sait pas.
Le côté prendre une vision holistique du truc, regarder
une représentation facile de la personne dans son ensemble qui parle bien, c'est un gars qui a un rythme de travail, il est fatigué, il a le stress, il va se faire une ulcère à l'estomac. Il va voir le docteur il fait « Ah oui, vous avez un ulcère, on va vous soigner ça ». On soigne le symptôme, hop, c'est guéri au bout de quelques jours, on retourne au travail, quelques jours après, t'as un eczéma qui arrive. Ouais. Hop, il va voir le docteur encore, « Ah, vous avez un eczéma,
oui, mais il va voir le monsieur eczéma.
Mm-hmm. On va soigner ça, quelques jours après, c'est réglé, on retourne au travail, quelques jours après, ben, c'est dépression et puis arrêt de travail. Alors qu'à la base, on aurait vu, mais t'as juste un rythme, il faut que tu calmes un peu la machine, là, repose-toi. Et ton ulcère, t'as même pas besoin de le soigner. C'est bien de le soigner si tu veux, mais en fait, t'as pas besoin de le soigner. Calme-toi, repose-toi, prends un rythme normal, ton ulcère va disparaître. C'est juste un signal qui te dit la machine, elle est à bout.
Donc, regardez ailleurs.
C'est intéressant que tu dises machine, parce qu'effectivement,
le corps humain, c'est une machine.
On est une machine, mais on n'est pas une voiture où on peut changer une roue et hop, c'est reparti, quoi. Nous, une roue,
c'est comme ça que fonctionne la machine.
Il y a le facteur affectif et sentimental qui joue énormément sur la machine.
Juste avant de se quitter pour une deuxième respiration, tu nous parlais de rester dans cette idée de terrain, de l'importance pour toi, par exemple, de cure qu'on peut faire.
Ça c'est un truc qui se faisait beaucoup
avant. Deux périodes
avant.
Dans l'année principalement.
Les anciens le faisaient. Ouais, c'est cure de printemps, cure d'automne. C'est le corps, il accumule beaucoup de toxines. Par exemple, on va dire l'hiver, on mange moins de légumes frais, un peu plus de viande pour ceux qui en mangent. On va avoir une alimentation qui va être différente, c'est bien entre ces saisons-là.
Moins éliminer aussi,
voilà, c'est bien d'éliminer un petit peu, et comme on disait tout à l'heure, de nettoyer les émonctoires. Donc, les petits cures. Après, je sais pas si on a le temps là de voir quelques exemples.
Ouais, alors moi, c'est une que j'ai. Une petite cure de printemps.
Il y en a quelques-uns. Cure de printemps, alors on va dire au printemps. Je sais, si les gens veulent cueillir eux-mêmes, c'est bien de la préparer un peu avant, donc on va dire. À l'automne, c'est là qu'on ramasse les racines. On peut faire racines de pissenlit, racines de bardane, ça marche bien.
Alors pissenlit, on en trouve beaucoup partout. Bardane, c'est un petit peu plus...
Bardane, il y a beaucoup d'endroits. À partir du moment où on connaît la plante,
c'est ça. Bardane, c'est celle qui s'accroche. Là, qui
c'est des petites boules qui ont inventé le velcro. C'est basé
sur ça. Quand ça s'accroche sur toi, tu sais que c'est de la bardane.
Prends la racine et fais une cure.
C'est quand ça s'accroche sur toi, ça peut en être.
D'accord.
Mais bon, après, voilà, il faut reconnaître la plante, savoir où elle est. Donc ça, la feuille d'artichaut, c'est un très bon régénérateur du foie. Sauge. Après, c'est bien de rajouter aussi des plantes qui vont donner un bon goût, parce que tout ça, c'est des plantes très amères, qui sont dures à avaler. Et donc, une cure, c'est pas une diète, hein. On peut avoir une alimentation normale, on peut avoir tout ce qu'on fait d'habitude. En plus de ça, on prend la cure, ça veut dire pendant 3 semaines. Moi, j'aime bien 3 semaines, une cure, c'est pas mal. Première semaine, on va boire 1 demi-litre par jour. Deuxième semaine, 1 litre. Dernière semaine, on redescend 1 demi-litre par jour. Et pour ça, du coup, voilà, on se prépare. On va pas préparer tous les jours 1 litre parce que c'est vrai que c'est contraignant. Moi, j'aime bien. En début de semaine, je me prépare, 7 litres si c'est la semaine du milieu. Et, tu as tes bouteilles au frais et puis tous les jours, tu vas te boire une tasse. Enfin, tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vas te boire ta tasse pour faire ton litre dans la journée. Et puis voilà, une petite cuillère de miel si tu veux pour aider à faire repasser parce que le goût bon.
Pour enlever un peu d'amertume, un peu de miel dans le.
Après, faire attention avec ça aussi. Le miel, c'est un peu comme le sucre, tout ça. C'est, si t'en mets trop, faire une cure et te mettre trop de sucre par-dessus, ça aide pas non plus. Donc, un tout petit peu pour aider à faire passer. Le mieux, c'est de le boire comme ça.
Il y a la réglisse et la stevia.
La citronnelle, la mélisse, le côté citronné, des fois, ça aide un peu à faire passer. Après, tout ça, oui, c'est fort en goût. Quand on prend l'habitude de boire des tisanes régulièrement, c'est comme tout ce qui est manger des plantes sauvages. Au début, le goût est fort. Puis quand on s'y habitue, bah, c'est, oui, l'alimentation, ça a du goût. Forcément.
Après, ça te manque, t'as envie, t'as pris celui, t'as pris le goût.
Ouais.
Donc, tu en fais un thé, c'est ça, tu en fais une tisane, juste
chauffée
dans l'eau chaude.
Une tisane, le thé, c'est une
plante. Tu mets de l'eau chaude dessus ou tu fais bouillir, en fait,
c'est ça. Alors, l'infusion, pour ces plantes-là, parce qu'après, il y a plusieurs trucs différents, tout ce qui est racine, ça va être plus une décoction.
D'accord.
Donc là, moi, je fais un truc, je fais une décoction avec mes racines. Pendant, on va faire bouillir allez, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, selon les trucs. Là, je n'ai pas les idées précises pour chaque. Et une fois que la décoction est finie, tu arrêtes l'ébullition et là, tu rajoutes tes feuilles. Donc, artichaut, sauge, selon ce que tu veux.
Très facile à faire, à portée de tous.
Donc, décoction, tu fais bouillir. Et infusion, tu ne fais pas bouillir. Tu mets dans l'eau chaude. Ou même mieux, tu mets d'abord dans l'eau froide. Tu portes à frémissement. Et quand c'est à frémissement, là, tu arrêtes. Tu couvres pour ne pas perdre les huiles essentielles.
D'accord.
Voilà, donc tu peux faire d'un côté l'infusion avec tout ce qui est feuille, de l'autre côté la décoction avec les racines, mélanger après si tu veux.
Ok. Voilà. Tu joues au sorcier.
Ok, on verra la cure d'automne juste après notre deuxième petite pause. Rémi nous a suggéré un morceau d'Yves Jamais qui s'appelle Athée Souhait. Alors, athée en un mot comme un non-croyant. Athée Souhait, Yves Jamais.
Peut-on s'imaginer qu'un jour l'être humain déifie sa terre et lui consacre autant d'amour qu'à ses religions délétères? Peut-on supposer un instant qu'au lieu de se fendre en prière, il s'en tienne à son raisonnement pour des siècles de lumière? Ça dépend de ce que l'homme aura fait, ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit. C'est bien là le problème, c'est que ça dépend de lui. Il serait temps de concevoir, de s'occuper de la planète. Les obscurantistes notoires ont d'autres affaires plus concrètes. Dieu a tout vu, Dieu a tout va. Il est un peu léger l'espoir de ne pas revoir un monde plat, déformer nos livres d'histoire. Ça dépend de ce que l'homme aura fait, ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit. C'est bien là le problème, c'est que ça dépend de lui. Ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit. C'est bien là le problème, c'est que ça dépend de lui. Chacun son dieu, chacun sa guerre. Et si apocalypse il y a, les responsables de cette misère faudra les chercher ici-bas. Quand l'homme craigneux a son image, l'image que cela suggère n'est pas vraiment celle d'un sage garderait les pieds sur terre. Ça dépend de ce que l'homme aura fait, ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit. C'est bien là le problème, c'est que ça dépend de lui. Ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ou dit. C'est bien là le problème, c'est que ça dépend de lui. Ça dépend de ce que l'homme aura fait, ça dépend de ce que l'homme aura dit. Ça dépend de ce que l'homme aura fait. Ça dépend de ce que l'homme aura fait. Ça dépend de ce que l'homme aura dit. Ça dépend de ce que l'homme aura dit. Ça dépend de ce que l'homme aura fait. Ça dépend de ce que l'homme aura dit.
C'était Yves Jamais avec À tes souhaits. On revient dans un pas de côté avec Rémi, Magali, Kevin. On en était aux cures, chers amis. Alors, on avait une petite cure de printemps à base d'artichaut pour nettoyer les.
Zémonctoire,
merci beaucoup. Et alors, si on veut faire une petite cure d'automne, bon là c'est trop tard pour cette année, mais une petite cure d'automne, on entend beaucoup parler de la cure de raisin. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, cure, du coup, par rapport à tout à l'heure, on disait on peut garder une alimentation et avoir cette cure en plus. La cure de raisin,
c'est exclusif,
ça, j'appellerais ça plutôt une monodiète. Hein. Oui. C'est là pendant plusieurs jours, une semaine, deux semaines, moi je crois que j'ai fait deux semaines et demie, trois semaines, une fois, on va manger que du raisin. On peut boire de l'eau et des tisanes, mais on va manger en solide, on va manger que du raisin. Alors c'est bien de faire attention à qu'est-ce qu'on mange comme raisin. Chassolat, muscat, c'est les deux seuls mois que je consomme maintenant. Tout ce qui est raisin d'Italie, tout ça, ça a la peau épaisse. Au bout de deux, trois jours à manger que ça, on s'arrache la bouche, c'est pas bon. Donc voilà, et puis il y a... Ça, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait une fois. C'est vrai que t'as un démarrage qui est beaucoup plus rapide. C'est avant de le faire un petit jour ou deux jours de comment on appelle ça, de diète. Enfin, on mange
de
rien.
De jeûne,
voilà. Et il y a un truc, je sais plus, c'est chlorure de quelque chose.
Magnésium
qui fait qu'on se vide complètement les intestins. Alors, c'est pas super agréable, mais ça permet déjà d'avoir les intestins plus ou moins vidés. Et après, on passe au raisin, là, pendant plusieurs jours. C'est bien de faire au moins 4-5 jours, quoi. C'est juste 2-3 jours. Bon, c'est bien, c'est rigolo, mais ça n'a pas les vertus que ça peut avoir si on tire un peu plus, quoi.
Il y a des... Moi, j'ai un bouquin sur la cure de raisin qui préconise aussi des lavements intestinaux après le premier jour, après le deuxième jour.
Alors, c'est peut-être un petit peu... Là, c'est pas mal. Après, lavement, c'est un peu raide, quand même. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
C'est vraiment aussi, ouais.
Après, je crois que ça s'adresse à des personnes en bonne santé. Il faut faire attention aux carences.
Exactement.
Et une cure au-delà d'une semaine, il faut. Ça s'adresse quand même à des personnes un peu averties, qui savent, qui connaissent. C'est bien de se tester un petit peu parce que il faut 3 semaines de cure. On peut vite se carencer aussi. Donc, il faut être prudent.
Une semaine, c'est bien.
Ça peut être très sain, mais si c'est fait, si c'est mené d'une manière. Intelligente et voilà, il faut se connaître quand même.
C'est intéressant que tu viennes sur ce message de prudence parce que en général, de toute façon, c'est pas parce que ça vient de la nature, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Ça peut il peut y avoir. Je pense notamment principalement aux huiles essentielles qui sont quand même très très puissantes. Donc il peut y avoir des contre-indications et même des problèmes en cas de mauvais usage, quoi.
Alors, c'est pas compliqué. Avec des huiles essentielles, il y en a certaines qui contiennent notamment des cétones. Avec 10 gouttes, on en voit...
Cétone, donc c'est une molécule qui est présente dans l'huile.
Ouais. Ça peut être présent dans plusieurs huiles essentielles, mais certaines en contiennent des grosses quantités. Du coup, en général, elles sont pas en vente libre. Mais je veux dire, avec 10 gouttes, on envoie quelqu'un à l'hosto. Hein.
Ouais.
Et il faut être vraiment prudent. Il y en a qui sont abortives, il y en a qui sont neuroleptiques. Il faut faire très attention. C'est bien d'aller, quand on ne sait pas, déjà, c'est très facile de trouver de la documentation. Et puis, c'est bien d'aller, de commencer par traiter des petites choses faciles. On peut traiter un nez qui coule, un petit rhume, voilà, des petites douleurs articulaires. Moi, j'appelle toujours au bon sens. Ce qu'on a tous été soignés par des grands-mères avec une petite tisane, une petite pommade.
Et de moins en moins, j'ai l'impression.
Ouais, non. Moi, j'ai pas eu ça. Moi,
non, mais de moins en moins,
alors,
ce que
moi,
je veux dire, c'est
de
que
ma génération.
C'est peut-être un savoir-faire qui.
Et parce qu'elles ont perdu confiance aussi, je crois, les grands-mères. Elles se sont dit non, les médicaments, ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Et on a beaucoup dévalorisé. Les tisanes les petites plantes qui poussaient au jardin, mais ça, je pense que c'était juste une question de business. Ça rapporte rien. Hein,
oui, puis quand on interdit d'en parler, quand on fait un procès à des gens qui font des purins d'ortie,
hein,
c'est un système qui aussi, effectivement, concentre le savoir quelque part.
C'est
et puis,
pas nouveau. À une époque, ils brûlaient les sorcières qui étaient des guérisseuses. Donc on en est toujours
oui,
là.
Oui,
ça
oui,
pas
c'est
et donc, bonne nouvelle, tout le monde. Il y a un grand élan et beaucoup de personnes s'intéressent de plus en plus. Une documentation accessible à tous.
Voilà. Et puis on a des références absolument extraordinaires. Moi, j'ai une admiration folle pour Maurice Mességuet et c'est vraiment lui qui m'a, à travers ses livres, qui m'a transmis cet amour des plantes.
De Menton.
Oui. Et voilà, moi étant des Alpes-Maritimes, je sais que après guerre, cet homme-là, il soignait plein de gens parce qu'il n'y avait pas accès aux médicaments et tout ça. Et plein de gens allaient se soigner en phyto. Alors, il préconisait beaucoup les bains de pieds, les bains de mains et toutes ces choses-là. Et il préconise surtout une médecine familiale et pas dangereuse. Et c'est bien de... Voilà, on a plein de références. Il y a Maria Trébène, il y a eu des grands herboristes en Europe. Et il n'y a pas de danger. Il y a qu'à juste se documenter. Et en fait, ça fait partie de la prise en charge aussi, ça. D'aller chercher aussi, de pas, c'est facile d'aller chez le docteur, d'avaler deux pilules et hop, on s'en occupe pas et on se préoccupe pas de ce qui a pu déclencher et voilà, le médecin prend en charge la santé et nous on peut continuer à déconner, à faire
à
un peu
comme paquets de club.
Voilà et
donc c'est un appel à la responsabilité en fait de chacun maintenant.
De toute façon, oui.
D'accord. Prenons en main notre santé, notre corps,
se responsabiliser, oui.
Voilà. D'accord.
Oui, mais moi c'est la principale vertu, je trouve, effectivement, c'est que faire ce chemin vers ça, c'est aussi avoir un regard sur soi, se questionner sur soi-même et se dire pourquoi il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire pour moi, etc. Effectivement, aller voir un médecin et lui confier l'intégralité de ses soins, c'est assez.
Enfin, sans dénigrer justement, moi si je me pète le pied, je vais à l'hôpital, les amis.
Après, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu te fais piquer à la gorge par une guêpe, tu files te faire une piqûre de cortisone à l'hôpital. Il y a des trucs, je veux dire, c'est évident. Je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, loin de là. Et moi, je suis pas intégriste du tout. Je crois qu'il y a plein de petits bobos qu'on peut se soigner tout seul, mais quand il y a un besoin, déjà d'un diagnostic, on va voir un médecin, et après, selon les pathologies, on prend des médicaments, bien sûr, et on peut tout à fait, après, éliminer, quand on se sent chargé, après avoir pris une cure d'antibio et tout ça, on peut se refaire une petite flore intestinale, et puis éliminer avec des tisanes et tout ça, mais bien sûr que heureusement que la médecine sauve des vies.
Donc c'est compatible en fait, les deux sont compatibles.
Exactement, bien sûr. Je crois que il faut pas continuer à engraisser des lobbies qui cherchent à nous faire croire qu'on n'est pas capable de se gérer soi-même. Mais par contre, quand il y a quelque chose, il faut pas hésiter à aller faire un diagnostic chez un médecin, aller à l'hôpital quand c'est urgent et se soigner avec des bonnes grosses molécules chimiques de synthèse quand c'est nécessaire. Ça sauve des vies, bien sûr.
Puis au final, ça te désengorge tout, il n'y a plus de salle d'attente. Tu vas aux urgences, tu es vraiment pris directement puisque tous les autres petits soucis.
Mais c'est ça.
Les
médecins et les pharmaciens ont un rôle à tenir, ça a une importance. Après, il ne faut pas tout leur confier non plus. La petite grippe, la petite gastro, on n'a pas besoin d'aller chez un docteur pour ça, quoi.
D'accord. Voilà. Alors maintenant, donc, toutes ces plantes, moi j'en ai plein au jardin que vous avez cité. Est-ce que je peux moi les prendre dans mon jardin? Est-ce que je vais dans une pharmacie spécialisée? Est-ce que je vais au marché chercher un herboriste? Comment je trouve, où je me fournis et comment je me renseigne pour vraiment concrètement l'appliquer dans ma vie au quotidien?
Bon, ça, je pense que tu as plusieurs niveaux. Entre tu peux faire tout toi-même, aller récolter en suivant les quelques règles qu'on a citées tout à l'heure pour faire tes cueillettes, faire tes séchages.
Donc sauvage, là tu vas dans
le... Sauvage, après tu peux aussi aller dans une pharmacie herboristerie, acheter des plantes séchées.
D'accord.
Moi je ne conseille pas forcément la pharmacie parce que ce n'est pas toujours les meilleures qualités qui soient. Il y a beaucoup de règles par rapport à la qualité des plantes, mais il y a beaucoup de plantes qui viennent d'Europe de l'Est par wagon entier. Et quand le lot n'est pas bon, eh ben, c'est soit le lot il est perdu, mais le producteur il n'a pas envie de perdre son truc. Donc s'ils font un peu de forcing et ils les vendent quand même, ces plantes qui sont parfois un peu vieilles, parfois pas de très bonne qualité. Donc je ne dis pas que c'est dans toutes les pharmacies comme ça, mais voilà, pour moi c'est pas forcément le mieux. Après t'as des boutiques spécialisées d'herboristerie où là t'as des plantes de qualité.
Ou sinon idéalement tu le fais pousser dans ton jardin, tu lui donnes tout l'amour que tu lui expliques.
Pour certaines tu peux faire pousser dans ton jardin. Pour moi une plante médicinale c'est une plante qui va être que tu cherches le principe actif qu'il y a dedans. Et les plantes qui sont le plus chargées en principe actif, c'est la plante qui pousse vraiment à l'endroit où elle a décidé de pousser.
Elle a choisi elle-même, d'accord.
De la lavande, tu vas jamais faire pousser, si tu habites ici dans le Tarn, tu vas jamais faire pousser une aussi bonne lavande que celle que tu ramasses en Provence, par exemple.
D'accord.
Donc, tu peux faire pousser certains trucs. La consoude, le souci, ça, tu peux en faire pousser. Après, moi, je conseille, pour beaucoup de plantes, je conseille plus les plantes récoltées sauvagement. Il y a quand même beaucoup de règles à respecter derrière. Mais c'est souvent plus efficace, oui.
D'accord.
Et puis, moi, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est de récolter les plantes qui poussent dans notre environnement. On est plus en symbiose. Encore Paracels, qui disait qu'on devrait manger et se soigner avec ce qui pousse dans un rayon de 30 km.
Donc, pas de sushi, quoi.
Parce qu'il pousse spontanément, c'est-à-dire sans nous l'avoir implanté.
En fait, oui, on a une compatibilité qui est bien meilleure.
D'accord.
Voilà.
Donc ça répondrait à tous nos petits besoins du quotidien. Ici, on devrait trouver notre médecine entre guillemets.
Bon, après, ça a été dit au Moyen-Âge, sans doute. Mais quand même, ça reste un principe, je trouve, sage.
Je voudrais même rajouter un truc, c'est bien de prendre ce qui pousse autour de nous, mais c'est bien de manger ce qui pousse au moment.
Ah, en saison, bien sûr.
Dire là, on est en plein hiver, c'est bien de manger du chou, des poireaux, des trucs, plantes qui vont être riches en soufre, par exemple. Mmh. Au printemps, c'est bien de manger tout ce qui est salade de printemps, tout ce qui est jeunes feuilles, qui vont être riches en vitamines. C'est bien de manger des légumes de saison. Et ça, les gens qui vivent un peu plus en ville et qui vont dans les supermarchés, tu vois des tomates en plein hiver, enfin ce genre de truc, c'est voilà, on n'est pas habitué à manger de saison, c'est dommage.
On parle de plantes aromatiques, plantes médicinales, mais les légumes, c'est aussi des plantes de santé, quoi.
Et ben là, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange, ça agit sur nous, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on ingère, tout ce qui rentre dans notre corps agit sur nous.
Donc autant qu'elles soient de meilleure qualité possible.
Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, local, se soigner, c'est le terrain aussi, c'est fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu bois, et déjà en faisant ça, tu te soignes.
En tout cas, tu gardes ta bonne santé. Oui. En entretien, la santé, c'est quelque chose qui s'entretient, la santé.
Mais tu vois, tu dis fais attention à. Et ça, c'est peut-être un peu. Pour certains, ça paraît un peu anxiogène, quoi. Fais attention à ce que tu manges.
Fais attention. Je veux dire, fais attention. Voilà, il n'y a pas de danger. Sois conscient de ce que tu fais. C'est peut-être plus correct. T'as raison.
Il y a du bonheur à trouver à ça. C'est bon pour tout. C'est ça que je. C'est clair. Alors, le temps passe vite, chers amis, et ce qui est bon signe. Et on vous a demandé un petit truc concret. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose, une petite recette, un petit truc très concret à faire
pour nos auditeurs.
En plus des cures déjà de tout à l'heure. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut faire en plus des cures?
Moi, il y a un petit baume que j'aime bien, qui est tout simple et qui est vraiment magnifique et qui rend beaucoup de services. C'est le petit baume au souci. Alors le souci des jardins, on l'appelle aussi le calendula, c'est très facile à faire et puis on peut pas vraiment se tromper avec le calendula, c'est rare les gens qui n'ont pas du calendula dans leur jardin, ça pousse
surtout
facilement.
Surtout que quand t'en as mis un, en général l'année d'après t'en as 15 quoi.
Il appelle tous ses potes.
Un petit détail, le calendula, c'est celui qui est orange, parce qu'il y en a plein qui font partie déjà chez Refleury, il y en a qui sont plus orange, plus jaune, plus clair. Les plus orange il est, plus
c'est celui-là qu'on utiliserait, d'accord.
Voilà. Le souci des herboristes, c'est celui qui est orange.
Oui. Cool. Et en tout cas, on ramasse les fleurs, mais on peut prendre un petit peu, il y a des principes actifs aussi dans les feuilles. En général, quand je ramasse, je cueille jusqu'au bouton d'en dessous. Et après, voilà, c'est bien de le hacher et de le faire chauffer, mais vraiment tout doucement, dans de l'huile. Alors, on peut prendre une huile d'olive, elle va très bien, une bonne huile d'olive de première pression à froid. Et on fait chauffer tout doucement, on essaye de pas dépasser les 35 degrés, genre avec une petite bougie chauffe-plat, se faire un petit système. Et ça, on laisse chauffer pendant 2-3 heures. Ensuite, on peut rajouter du karité, si on en a, ou du beurre de coco, ou tu sais,
très
un peu
local,
ces,
ça. Ça, c'est
ces huiles figées comme ça qui durcissent.
Cire d'abeille.
Et ensuite, on peut rajouter de la cire d'abeille.
D'accord.
Voilà, en général, moi, je fais un tiers, un tiers, un tiers.
Ah, ok.
Voilà, un tiers d'huile avec le calendula. Un tiers de karité ou d'huile de coco et un tiers de cire d'abeille.
D'accord.
Et voilà, ensuite on filtre avec un tissu. Et voilà, et en refroidissant, ça fait un petit baume
qui se solidifie du coup.
Qui se solidifie et qui se garde au moins un an. Et là, avec ça, tout ce qui est gerçure, petites plaies, problèmes de peau, voilà. Pour la peau, c'est une merveille. Pour tout ce qui, tout ce qui est blessure où il faut désinfecter, tout ce qui est irritation, démangeaison, voilà. C'est un remède qui est très très connu, qui est utilisé depuis la nuit des temps.
Eh ben, merci beaucoup. Super. Une recette pratique. On voudrait finir cette émission avec un petit coup de cœur qu'on voudrait partager, Kevin et moi. Enfin, on en a un chacun.
Ouais, bien sûr.
Alors, Kevin, on t'écoute. C'est quoi ton coup de cœur?
Moi, le coup de cœur, en fait, justement, ça va rester dans ce côté se soigner, prendre soin du corps, du cœur et du terrain. Et il y a un bonhomme en France qui s'appelle Thierry Casanovage. Alors, je vous encourage juste à aller voir ce qu'il fait, aller regarder sur sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Régénère. Et son discours, c'est plus de régénérer le corps. Au lieu justement de traiter un symptôme, c'est d'aller justement sur la cause et de voir le corps comme un système global, holistique. Donc il y a plein de choses intéressantes, il est très pointu sur beaucoup de choses. Donc voilà, Thierry Casanovas, Régénère.
Manger cru aussi, je crois.
Manger cru, voilà, c'est un crudivore, etc. Mais très intéressant.
Ok, moi mon coup de cœur ce mois-ci c'est pour un film documentaire de Jonathan Nociter qui avait réalisé il y a 10 ans le docu sur le vin qui s'appelait Mondo Vino. C'est un film qui s'appelle Résistance Naturelle, tout un programme. Il nous fait rencontrer un directeur de cinémathèque et des vignerons, bah oui, qui élaborent un vin dit naturel, qui ont fait le choix de sortir de l'équivalent de l'AOC en Italie, jugeant que cette appellation tue les produits agricoles en les transformant tous en produits similaires. Parce que l'agriculture, c'est aussi une question de culture. Et on apprend notamment dans ce documentaire, par exemple, qu'une vigne, ben, c'est l'assemblage de tous les composantes d'une même variété de raisin. Par exemple, dans le film, il y a un vigneron qui est assez extraordinaire, qui nous montre son exploitation où c'est du cépage Dolcetto sur une même parcelle. Alors il nous montre qu'il peut y avoir des pieds qui produisent des grappes avec des raisins tout petits, puis d'autres avec des raisins très gros, moins nombreux, ou plus sucrés, ou qui contiennent plus d'eau, bref. Il nous explique que le goût d'un vin, c'est aussi le mélange des différences au sein d'une même variété. Et si, comme ça se pratique aujourd'hui, on se contente de cloner les pieds qui sont les plus productifs, eh ben, toute la richesse des arômes aura disparu et il faudra donc rajouter des produits, sinon le vin sera fade. Eh ben, je me suis dit que c'est comme chez les humains, on en a un peu parlé tout à l'heure, si on se mélange pas assez, alors la vie est fade. Toute correspondance avec des événements présents ou juste passés serait purement fortuite. Bref. Courez voir Résistance Naturelle, un documentaire de Jonathan Nociter, parce que ça fait du bien et qu'on est moins con quand on en sort. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Je voudrais juste savoir si vous avez un dernier mot à rajouter. Vous n'êtes pas obligé.
Moi, je dirais merci.
Merci.
Amour, un mot, amour.
Amour, c'est un joli mot à rajouter.
Ouais, ouais, ouais. Faites tout avec amour et ça ira mieux.
Eh ben, merci beaucoup Rémi Culic, on te retrouve à Vaour, le Jardin des Merveilles c'est à Vaour, voilà. Tu es aussi sur internet avec un blog, voilà. Si on tape le Jardin des Merveilles,
le Jardin des Merveilles, il y a un blog, il y a une page Facebook,
il y a un club nature, il y a plein de choses, voilà. Très actif, nature,
on te retrouve aussi sur le marché de cordes le samedi,
Saint-Antonin le dimanche,
et Saint-Antonin voilà, le dimanche,
surtout au printemps été.
Et tu es toujours ravi de papoter, de raconter des histoires sur les plantes et nous aiguiller un petit peu dans trop d'ailleurs.
Quand vous lui parlez, prévoyez d'avoir un peu de temps. Voilà. Et Magali, toi on te retrouve aussi sur le marché de Saint-Antonin où tu vends de très belles céramiques, où tu vends des savons et où tu vends aussi des baumes, etc.
Voilà. Et je suis aussi au marché de Cordes, là pas l'hiver, mais voilà. Et puis sinon à Millars. L'atelier est ouvert.
Exactement.
Ouais. Super.
Et si on fait Magalima céramique aussi sur internet, on arrive jusqu'à toi.
On trouve facilement.
Ouais, ton toit virtuel en tout cas. Merci beaucoup à CFM et à Jacques
merci,
de nous avoir soutenus dans cette ambitieuse entreprise. Merci à Kevin.
Merci à Lionel.
On se retrouve le mois prochain pour un nouveau pas de côté. N'oubliez pas de faire un pas de côté, c'est important. Et oui, je voulais quand même vous souhaiter une très belle année à tous, parce que on est en janvier, ça y est, et une année de tolérance et de rencontres culturelles, je vais dire ça comme ça pour moi.
Voilà, et vous permettre de faire un pas de côté en 2016, on sera là pour vous solliciter pour et vous influencer un petit peu.
Merci beaucoup à tous, au mois prochain.
Allez, ciao.
Merci.
Je ne t'oublierai pas. Et il y a trop de vie et de prière qui reste compris sur la terre. On va se battre pour nos frères. Qu'est-ce qui nous fait vivre, déplacer les murs, juste pour survivre. La vie se dessine un peu au début, puis il faut choisir.